Vous écoutez le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affiliée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulées Les damnés de la Terre, nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afro-descendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociaux et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
Je m'appelle Dandara, je suis brésilienne, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en France en 2017, du coup j'avais 21. Et j'ai fait la dernière partie de mes études les deux dernières années. Je fais une école d'ingénieur, du coup c'est comme le master 2, mais c'était les deux dernières années d'école d'ingénieur. Et du coup pratiquement toute ma carrière professionnelle a été faite ici en France. Je suis restée, voilà, ça fait bientôt 5 ans que je suis en France. Ça me plaît bien. Alors au Brésil, pendant que j'étais là-bas, il y a eu un grand financement pour les échanges. Il y a eu le programme qui était Sciences sans frontières pendant le gouvernement de Lula et Dilma. Que en fait, c'était des échanges partout dans le monde. Et dans mon école, il y avait en plus de ça un programme d'échange qui était avec la France. C'était le Brafitec, Brésil, France technologique. Et du coup, pendant que j'étais, il y a toujours un moment du parcours d'étudiant qu'on peut envisager d'aller à l'extérieur. Et quand c'est arrivé le moment pour moi, c'était le juste moment où le programme de bourse pour le Science sans frontières, il était arrêté. C'était à l'époque de l'empêchement de Dilma. C'était vraiment, il y a eu toute cette situation politique qui s'est passée. Et du coup, le seul choix que j'avais, c'était pour le Brafitec et quelques autres à l'extérieur. Mais c'était surtout pour des échanges de 3 mois, 6 mois. Et ici, j'avais la possibilité de faire un programme de double diplôme. En fait, je viens d'un milieu pauvre, enfin au Brésil. Et du coup, en fait, les choses, elles sont arrivées au fur et à mesure. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, au collège, je me disais, au Brésil, on a les écoles technologiques qui sont les lycées professionnels, qui sont on doit faire un concours. Et du coup, j'ai dit, bah, il existe la possibilité de passer un concours pour aller dans un lycée professionnel, parce que là-bas, c'est très, si tu veux faire quelque chose dans la technologie, dans l'ingénierie, c'est intéressant de faire un lycée professionnel comme ça. On a des bases de l'ingénierie un peu en avance. Du coup, dès qu'on démarre les études supérieures, on est plus prêt à travailler là-dessus. Et là, il y a eu cette possibilité. J'ai fait le concours, j'ai été acceptée dans le concours. Et un jour, pendant la troisième année de lycée, le moment où je devais choisir ce que je pouvais faire, je suis allée faire un examen dans mon école. C'est une des meilleures écoles au Brésil. Moi, je pensais que c'était impossible d'y aller. Je me disais, bah, le maximum que je vais faire, c'est l'université fédérale. C'est les grandes universités gérées par le gouvernement niveau national, qui sont les plus difficiles à accéder. Je disais que c'était celle de la ville à côté, et pas la meilleure ou la deuxième meilleure selon le classement, selon l'année du Brésil. Et finalement, quand je suis allée là-bas, j'ai vu, bah, cette possibilité, elle existe. Et là, j'ai essayé, j'ai réussi à accéder à cette école. J'ai fait mes études là-bas. C'était pendant 3 ans. Et après, je suis venue en France. Et normalement, j'étais censée de revenir. Mais bon, j'arriverai un peu plus tard. Mais quand j'étais là-bas, je me disais, il existe la possibilité. C'est là que je commençais à apprendre que la possibilité d'aller en dehors du Brésil, que cette possibilité, elle existait. Parce que tant qu'on connaît pas quelqu'un qui ait fait la même chose, qu'on sait même pas que cette possibilité, elle est ouverte à nous. Et je pense que c'est même quelque chose qui met les personnes les plus pauvres ou les personnes dans une situation un peu plus de vulnérabilité. Et quand j'ai dit ça, c'est même par exemple au Brésil, être noir, c'est être dans une position de vulnérabilité. C'est que souvent on perd des opportunités parce que on connaît même pas que cette possibilité elle existe. Et quand on est dans un milieu aisé, on a quelqu'un qui a fait un échange, on a quelqu'un en fils de, on a quelqu'un qui peut nous donner le contact de quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise. On sait que cette entreprise cherche des personnes. Enfin, c'est très difficile de être le premier à faire quelque chose. Parce que par exemple, mes parents, ils ont été le premier de la famille à avoir des études supérieures. Du coup, cette possibilité était déjà ouverte pour moi. Je savais que ça pouvait être possible. Mais si j'aurais été la première à faire ça, je pense que pour donner le premier pas, c'est très dur. Pendant le gouvernement de Lula, il y a eu les actions affirmatives. On avait les quotas pour accéder à l'école. Et dans les quotas, on avait, on va dire, 50% d'accès sans critères. Et 50%, c'était pour des quotas. Mais dans les quotas, il y avait une partie qui était basée sur la race. Au Brésil, on considère la notion de race. Du coup, on pouvait, c'est ce qu'on appelle pardo là-bas. C'est quelqu'un qui est mélangé, une personne métisse, soit des personnes qui ont des origines indigènes et des noirs. Ça, c'est un pourcentage et il faut être pauvre aussi pour accéder dans ce pourcentage, on va dire 5% ou 10%. Après, il y a sur des critères basés sur la classe sociale, le niveau de pauvreté, on va dire. Enfin, et il y a, par exemple, pour des personnes handicapées, etc. Du coup, tout ce mélange-là de toutes ces minorités, de toutes ces personnes, on va dire, différentes de la norme, ça rentre dans ce 50%. Du coup, par le biais de 50%, on pouvait être là. Parce que normalement, au Brésil, il y avait une histoire de les écoles publiques, c'était pour les riches. Les universités publiques, pardon. Les universités publiques, c'était pour les riches et il n'y avait que des blancs et que des riches. Maintenant, avec ces actions affirmatives, on a des pauvres. Mais quand même, par exemple, dans une école d'ingénieur, c'est difficile de retrouver des femmes et aussi des noirs. Parce que dans ces 10%, il y a beaucoup de garçons et il y a beaucoup, enfin, il y a souvent beaucoup de pardo, de métis, parce qu'il y a aussi toute cette discussion par rapport au colorisme, enfin, au Brésil, mais bon. Et voilà. Du coup, il y avait pas beaucoup de noirs, mais il y avait beaucoup plus qu'ici. On va dire. Parce que ici, en France, je suis arrivée, j'étais à Toulouse. Dans le sud, je suis arrivée ici, c'était 2017 du coup, et j'ai fait ingénierie mécanique, qui déjà de base, il n'y a pas de femmes, normalement. Nous, on était de 50 étudiants, 55 en fait, 5 filles, et j'étais la seule fille noire. Au tout début, c'était très dur parce que moi, je pensais que j'étais au niveau de l'estime de soi. Je me disais, je sais pas comment j'ai pu arriver ici. Je me disais que, enfin, j'étais pas intelligente, presque ça, parce que je voyais les gens, ils étaient à l'aise. Je dis pas par rapport aux étudiants en échange. Mais quand on regardait avec le français, je me disais, eh ben, je comprends rien. Déjà, il y avait une question que moi, quand j'étudiais le français, j'étudiais toute seule. Du coup, j'ai appris par moi-même. J'avais pas cette activité de discuter avec quelqu'un. Moi, j'ai discuté avec Google Traducteur pour savoir si ma prononciation elle était bonne. Et j'ai écouté de podcasts, des choses comme ça, mais d'être face à face avec quelqu'un et de discuter, c'était très dur. Et quand j'arrive là-bas et j'ai un cours de, c'était 1h15, pendant que le professeur, il parlait. Et déjà, j'ai découvert qu'il y avait un accent différent à Toulouse. Du coup, c'était encore pire pour comprendre. J'ai passé une journée de 8h du matin à 18h sans comprendre 10% de ce qu'on me disait, c'était très dur de comprendre, d'être là, et c'était très épuisant. Et quand j'ai discuté avec les autres personnes, c'est un peu, il y avait un jeu d'ego, je sais pas, au tout début. Ils disaient, non, mais c'est facile, c'est qu'ils expliquaient. Et au fur et à mesure, quand c'est passé les premiers examens, j'ai compris que personne comprenait des choses. C'était pas une question seulement de la langue. J'avais cette difficulté, mais par exemple, à la fin des cours, j'ai demandé à des collègues, à des amis là-bas pour me prêter leur cahier. Pour que je prenne des photos et que je lise plutôt que essayer de comprendre. J'avais des amis qui étaient aussi étrangers, qui enregistraient les séances de cours pour les réécouter, pour comprendre ce qui était dit. Mais c'était toujours un jeu d'ego, en train de se dire, bah non, j'ai compris, tout va bien. Et après les examens, on voit quelle était la réalité. Et aussi, pour moi, la plus grande angoisse, c'était les travaux en groupe. Parce que à chaque fois, on était les dernières personnes à être choisies pour composer le groupe, parce que déjà, il y avait le biais des gens qui, bah, ils sont étrangers, ils vont pas comprendre, il va falloir expliquer 50 fois, il va falloir apprendre plus de temps. Du coup, c'était comme les personnes les moins fortes de la classe. On va les mettre à côté, on va décider de, enfin, on va, ils sont pas la priorité pour la composition de notre groupe. Et du coup, à chaque fois que le prof, il disait, les groupes sont déjà définis, ça me soulageait sans faire exprès. Et en même temps, quand on est étudiant étranger, on est accepté pour venir ici, même si par exemple nos écoles sont très fortes, sont au même niveau, voire supérieures aux écoles ici en France, les gens ont une idée que vous êtes faible juste par le fait de ne pas être venu du même pays que nous. Et ce que je voyais, c'est que le niveau des étudiants étrangers, là-bas, c'était vraiment soit en égalité des meilleurs étudiants de la classe, soit supérieur. Et quand ils ont commencé à se rendre compte de ça, c'était juste la dernière année d'études. Du coup, là, c'était plus simple de faire partie des groupes, mais souvent, ce qui m'arrivait, c'était de faire comment dire, les travaux toute seule. Enfin, toute seule ou sinon de faire appel aux autres. Mais quand même, j'ai rencontré des personnes qui étaient impressionnantes, qui m'ont beaucoup aidée. Mais c'était souvent des personnes qui ont déjà vécu dans un autre pays, qui ont déjà vécu la situation d'être un étudiant étranger. C'est parce que c'est le fait d'avoir déjà vécu, d'être déjà à cette place-là, ça nous fait penser d'une façon différente. Au tout début, pour moi, c'était enfin, tout au début, je savais pas que, enfin, je savais que la France existait, mais j'avais pas une idée de comment vivre en France et que je pourrais un jour venir ici. Après, quand j'ai appris que c'était une possibilité pour moi, quand j'ai regardé à la télé, c'était Paris, la France. La France, c'est la Tour Eiffel, les gens qui sont très bien habillés, qui marchent comme ça, qui font la gueule tout le temps. Et du coup, j'avais un peu peur. Et au tout début, j'allais venir à Central Paris. J'étais acceptée pour l'école centrale. Mais il y a eu le problème de bourse. Au tout début, on avait 10 bourses pour ce programme-là. Finalement, on n'avait que deux ou trois. Et du coup, j'ai pas pu venir parce que j'avais pas l'argent pour venir. Et en fait, ce qu'on me disait pour essayer de me dire, ben, parce que les gens ont, pour essayer de poser un peu la frustration de ne pas pouvoir venir pour l'école centrale, ils m'ont dit, bah, mais tu vas même pas vivre à Paris, tu seras à Saclay, c'est très loin. Les gens qui vivent là-bas, ils vont une fois par mois maximum à Paris et tout. Et à Toulouse, c'est un peu plus tranquille. C'est une toute petite ville, tu seras au milieu de la ville, c'est une ville très étudiante, les gens seront dans le même esprit que toi. J'ai commencé à découvrir que Toulouse existait, que la France c'était pas seulement Paris, que la France c'était aussi d'autres villes, mais c'était toujours France métropolitaine. Et du coup, j'ai découvert Toulouse, c'était très sympa. Enfin, l'idée de Toulouse, c'est quand je suis arrivée ici en France, c'est là que j'ai appris que la France n'était pas que l'Hexagone, qu'il y avait les îles, qu'il y avait Guadeloupe, Martinique, Réunion, qu'il y avait aussi les îles du Pacifique, voilà. Quand j'étais à Toulouse, c'était un peu plus ouvert, mais j'ai côtoyé principalement des Brésiliens ou des étudiants étrangers. Mais j'avais quand même des amis de l'école, mais souvent, enfin, je sortais pas trop avec eux. C'était pas, je jouais dans le bal, parfois on sortait ensemble avec les filles de l'équipe, mais c'était quelque chose qui était dur, c'était le fait de se sentir un peu isolé de la culture du pays. Parce que souvent, c'est plus simple de rencontrer des gens de la même origine. Et je pense que pour eux, c'est un effort, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose, c'est pas que c'est pas naturel du sens de que vous êtes des inconnus, non, on va se fermer, mais Canon est normalement les écoles d'ingénieurs sont 3 ans, mais là-bas c'était 2 ans. Ils sont arrivés en première année. La plupart étaient arrivés en première année. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. D'ajouter quelqu'un dans leur groupe, c'était quelque chose de très dur. D'accéder à ce milieu. Et du coup, je suis restée avec des Brésiliens, des gens qui sont arrivés dans la même année que moi. Il y a ces images, par exemple, que les gens font la gueule à Paris, que c'est compliqué. Mais il y a toujours un espoir derrière. C'est que, par exemple, j'allais pas dans un pays où je savais que j'allais être frustrée ou quelque chose comme ça. Je dis pas que c'est la seule chose de la France. J'adore les amis que j'ai rencontrés et tout. Mais les déceptions, c'était par exemple quand je suis arrivée à Paris, au premier moment, je me disais que tout le monde me détestait. C'était vraiment culturel. C'est que par exemple, au Brésil, c'est même une chose de très différente dans la culture française et même dans d'autres pays. C'est qu'au Brésil, si t'arrives pas vers quelqu'un en souriant, en train de sourire, de se montrer accueillant, de t'accueillir la personne, en fait, tu penses que la personne a quelque chose contre toi. Enfin, qui est, comment dire, qui a un problème. Que c'est pas contre parce que contre toi c'est quelque chose de très fort, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que souvent on va s'approcher de quelqu'un et on va être souriant. J'ai dit Brésil, mais c'est surtout à Rio, parce qu'il y a des endroits au Brésil que c'est pas le cas. Et du coup, tu t'approches vers quelqu'un et tu vas sourire, tu vas dire quelque chose. Une autre chose, c'est que par exemple quand tu invites quelqu'un à quelque chose, la première réponse au Brésil c'est de dire oui. Oui, j'y vais. Et après à Rio, on va dire. À Rio, c'est de dire oui, et après tu réfléchis. Et si tu considères que c'est un vrai oui, quand la personne, par exemple la veille ou le jour même, elle va te dire oui, je viens vraiment. Et là, c'est un vrai oui. Mais ici, quand j'ai proposé des choses, la personne me disait non, et je dis ok. En un sec, comme ça, je me dis ok, ça va. Ou par exemple, nous, quand on va dire quelque chose qu'on sait que ça peut porter à une mauvaise interprétation, on va prendre avec des pincettes, on va dire, on va faire un grand tour pour dire la chose. Et sinon, on va être direct, on va dire ce qu'on a envie de dire et c'est bon. Oui, j'ai fait mes études à Toulouse finalement. En fait, comme j'ai pas eu la bourse, on a réussi à trouver une autre bourse pour l'INSA de Toulouse. Et du coup, je suis allée là-bas. Et j'ai fait une année complète entièrement à Toulouse, et après j'étais acceptée pour faire une alternance dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui. Et du coup, la deuxième année, j'étais entre Toulouse et Paris. Pendant 6 mois, j'allais à Toulouse, et après je suis restée les 6 mois derniers de 2018 à Paris, et jusqu'à présent, je suis là. En fait, je me souviens même que Bolsonaro, il a été élu. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, ah, c'est horrible, blablabla. Maintenant, c'est très dur. Enfin, si je me demandais si je voulais rentrer aujourd'hui au Brésil, là, j'ai plus d'options. En fait, le gouvernement de Bolsonaro, c'est un gouvernement qui n'est pas fait pour des personnes comme moi. Une femme noire, enfin, qui vient d'un milieu pauvre, pas un gouvernement fait pour moi. C'est pour des hommes, des militaires, des personnes qui sont au pouvoir. Il y a tout ce qui s'effondre au Brésil aujourd'hui, et il y a l'inflation qui augmente de plus en plus, et c'est pas seulement à cause du Covid, c'est pas seulement à cause de la guerre en Ukraine, c'est aussi d'une mauvaise gestion du pouvoir, de toutes les ressources brésiliennes. On est en train de brûler l'Amazonie, on est en train de tuer, c'est un génocide qui se passe avec les indigènes. De ma famille, il y a ma grand-mère qui est descendante d'indigènes, il y a, des deux côtés, en fait, il y a à Rio, c'est quelque chose qu'on parle depuis tout le temps, qu'il y a un génocide du peuple noir. En fait, par exemple, c'était un garçon au Brésil, je sais pas, l'espérance de vie d'une personne noire et d'une personne blanche, c'est complètement différent au Brésil. Et c'est par exemple, c'est triste, c'est que par exemple, si on entend une histoire d'un jeune qui est mort, tu vas, c'est, si la personne est un peu plus foncée, tu vas te dire, elle a été tuée. Si la personne est un peu plus claire, on va se dire, ah, elle était malade, on va commencer à se demander. Parce que c'est triste, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, au Brésil, il y a tout ce côté social qui est très compliqué. Et il y a aussi le fait, pour une carrière professionnelle, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité. Là-bas, on va retrouver beaucoup d'ingénieurs qui travaillent, en tant que chauffeur d'Uber. Il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de monde qui est surdiplômé. Surtout. Et quand on est dans une situation où le taux de chômage, il est hyper grand, en fait, tout le monde rentre dans une position de vulnérabilité parce que, en fait, tu te dis, on n'a plus de pouvoir de, comment dire, négocier avec le patron parce que, déjà, il te dit, si ça te va pas, j'en ai 50 autres qui sont dans la queue, qui vont te remplacer facilement parce que, en fait, il y a plus, comment dire, il y a plus cette notion de, je sais pas, ton travail, ton apport, tout ce qui est toi aujourd'hui, tout ce qui t'a apporté aujourd'hui, il a plus de valeur, en fait, t'es là. Et au Brésil, par exemple, on n'a que 30 jours d'affilée de vacances par an, par exemple. 30 jours, c'est-à-dire, par exemple, si je prends le mois de d'août, j'ai pas en vacances que le mois d'août. C'est pas, par exemple, 30 jours, de travail. C'est 30 jours d'affilée, y compris les week-ends et les jours fériés. Ça, c'est quelque chose qui est très différent. Et au Brésil aussi, il y a beaucoup une culture, qui est un peu une culture américaine, avec, il faut travailler, il faut donner son mieux, ta vie, c'est ton travail, etc. On n'a pas, je crois qu'il y a quand même des gens qui font 35 heures par semaine, mais c'est très, très, très rare. C'est minimum 40 heures, voire, et 45, c'est aussi souvent, c'est courant de faire 45 heures par semaine de travail. Aujourd'hui, je suis cadre, et là-bas, on n'a pas trop ça. Mais par exemple, les vacances, le 13e salaire, on a aussi au Brésil, mais les vacances, c'est beaucoup moins. Il y a quoi? Je crois que par rapport au pouvoir des travailleurs, il y a beaucoup ici, c'est beaucoup plus développé, mais au Brésil, il y a beaucoup de luttes là-dessus. Même par exemple, notre ancien président que j'ai déjà évoqué, il était syndicaliste. Je pense que c'est mieux de travailler ici en France qu'au Brésil, ça c'est sûr. Il faut pas que tu compares, par exemple, du savon avec des pâtes. Ça fait pas sens. Le savon, tu vas l'utiliser pour te nettoyer, parce qu'en portugais, ça rime un peu. Si tu t'utilises pour te laver, les pâtes, tu les utilises pour manger. C'est comme comparer le Brésil et la France. En fait, ta vie au Brésil, c'est pas la vie que tu mènes en France, et si tu essayes de trouver des choses que tu retrouvais au Brésil, ici en France, tu vas être toujours malheureuse parce que tu vas pas les retrouver. Tu vas pas retrouver les carioca, qui sont les gens qui viennent de Rio. Tu vas pas retrouver la plage de la même façon. Ici, en France, tu es là pour travailler, tu as tes amis, tu as une vie professionnelle. Au Brésil, tu étais étudiante. Et même si tu retournes aujourd'hui au Brésil, c'est plus le même Brésil que tu vas retrouver. Et je crois que ça, c'est même quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, quand on est étudiant étranger à l'extérieur, on est dans un endroit qui est un peu en limbo entre être fier de son pays et être la personne de l'autre pays. Je sais pas, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis un mélange du Brésil et de la France. Et il n'y a pas moyen de distinguer les deux, de te dire, d'essayer de bien délimiter les zones des deux. En fait, ça se mélange. Et tant que je continuais de dire, ça me manque le Brésil parce qu'ici en France, je retrouve pas ça. En fait, j'allais être malheureuse, j'allais regretter d'être là. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir les deux, d'avoir l'environnement que j'adore ici en France. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas. Mais pareil au Brésil, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas. C'est comme le sentiment, quand il y a quelque chose qu'on n'a plus, mais qu'on regrette de ne plus l'avoir. On pense que aux bonnes choses. C'est comme un relationnement qui est fini, mais à contre-gré. Tu dis, Bah, tout était bien là, avec lui, tout était sympa et blablabla, mais il y a aussi des mauvais côtés. Mais en fait, là, j'ai la chance d'avoir la France comme un endroit pour vivre ma vie adulte. En fait, la France aujourd'hui, c'est devenu la représentation de mon indépendance. Avant, je vivais avec mes parents. Aujourd'hui, je vis seule, je suis Tandara adulte, on va dire. En fait, le problème de la méritocratie, c'est qu'on regarde les gens par rapport à une ligne. Qui est là, du coup, c'est bon. Qui n'est pas là, n'est pas bon. Mais si, par exemple, la personne, elle est partie de beaucoup plus loin, et elle a fait tout un chemin pour arriver à cette ligne-là, comment on va comparer ces deux parcours? En fait, le problème de la méritocratie, c'est que pour des personnes qui ont eu beaucoup plus de difficultés pour arriver à un endroit, c'est compliqué. Enfin, ces personnes-là, elles sont pas au même niveau. Je crois que si il faut travailler dur, il faut essayer de donner son mieux pour avoir un peu la chance d'être là. Ce que ma mère me disait quand j'étais petite, c'était qu'il fallait travailler 2, 3 fois plus pour arriver au même endroit qu'un homme. Et c'est ça, en fait. Mais c'est très inégal. On peut pas dire que les personnes, enfin, c'est la réalité, mais on pourrait pas, si on pensait un peu mieux, si c'était pas les personnes qui sont au pouvoir, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est on régénère le pouvoir au fur et à mesure. Ça reste toujours dans le monde des peu et qui sont toujours la même personne. Si on, je sais pas, si on faisait un test d'ADN, ça pourrait être les 3%, ils pourraient être tous liés au niveau de l'ADN, parce que c'était très connecté. C'est comme par exemple l'histoire que je disais, que l'histoire de l'école ici en France, en fait, c'est très nocif pour la population, parce que celui qui va accéder à cette école-là, c'est très peu. Et c'est presque impossible pour quelqu'un qui vient de certains milieux d'accéder à cette école. C'est ce qu'un ami à moi me disait, qu'en fait, lui, il a grandi à Orly. Et quand il était petit, il savait pas qu'il pouvait pas faire certains lycées. Parce que sinon, elle pouvait pas faire une école. Elle a fait ENS. Et elle pouvait pas faire l'ENS parce que son lycée, il était pas bien classé. Et en fait, c'était un prof qui l'a dit, ne va pas à ce lycée-là, va dans un autre parce que sinon, tu vas rater tes chances. Et en fait, c'est ça. En fait, si on n'a pas quelqu'un pour nous dire, il faut pas faire, il faut, pour faire le bon choix, pour prendre le plus court chemin, même, ça va pas être, si facile. Et en fait, il faut être très intelligent et il faut être 3 fois mieux pour arriver au même endroit. Je connais la méritocratie, elle ne marche pas, en fait. Ah, je dirais la résilience, c'est de continuer à lutter et continuer à faire les choses et ne pas se dire, bah, j'abandonne. Parce que là, si je fais ça, en fait, pour mes enfants, ça va être un peu mieux. Et ainsi de suite, ça va. Par exemple, il y a mes parents qui se sont tapés beaucoup de travail, ils ont déjà fait un grand pas pour arriver au niveau où ils étaient, où ils sont aujourd'hui. Ça a été plus simple pour moi. Ce que je souhaite, c'est de rendre plus simple pour mes enfants. J'en ai plus tard. C'est que, au fur et à mesure, on essaye de rattraper le retard qu'on nous a imposé. C'est comme, il y a un livre qui s'appelle How Europe Underdeveloped Africa. Cette position de sous-développement qu'on nous a imposée. Et à chaque fois, il faut qu'on donne des pas beaucoup plus larges que les autres, que les gens qui sont au pouvoir, que les blancs, on va dire même.
Merci d'avoir écouté le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sékou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Kiadika à la caméra, Adia Diaby et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag LeMaki. Les Damnés de la Terre, une production de l'AMECAS et de Togan Audio, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Arujao da Silva, Mohamed Diaby, Saifuddina Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miakala, Julie Mbakop, Farel Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorbe Outre-mer de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antilles, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2 Panthéon Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin, nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives Étudiantes, la MIE de Paris.